Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Vauraz au micro de Radio IDFM avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue et ravie de vous retrouver sur IDFM Radio, la radio valdoisienne en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+ sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Ensemble pour 90 minutes, merci à vous tous qui nous suivez très, très fidèlement. Ce matin, 9 mai, au programme, deux événements à ne pas manquer. Une exposition qui se tient à Bercy Village pour découvrir le territoire français sous un nouveau jour. Et un salon, la fête des métiers de l'alternance, prévu demain 10 mai au Stade Charletti à Paris, organisé par le MEDEF Île-de-France et de nombreux partenaires que nous citerons tout à l'heure. Pour en parler dans quelques instants, nous retrouverons donc via le téléphone Loïc Lagarde, ingénieur en électronique de formation, passionné de photos et de voyages, qui nous présentera Planète France, à la fois un ouvrage aux éditions Lonely Planet et une exposition visible gratuitement jusqu'au 15 mai 2023 à Bercy Village. Et pour la fête des métiers de l'alternance, avec moi dans le studio, Véronique Blanc. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Je vous remercie de votre présence avec nous ce matin. Conseillère du recteur de la région académique d'Île-de-France, déléguée régionale académique adjointe à la formation initiale et continue, nous découvrirons votre brillant parcours académique et professionnel et votre engagement, c'est ainsi que je l'ai traduit en préparant l'émission, à mettre en valeur les échanges entre les entreprises et le monde éducatif afin de mieux les promouvoir. À vos côtés, Cédalhomme Folly. Bonjour Cédalhomme.
Bonjour.
Merci également de revenir dans nos studios. Ça a été un peu galère ce matin pour arriver, mais vous êtes là, c'est le principal. Donc responsable emploi et formation au sein du MEDEF Île-de-France, qui est l'organisateur donc de ce salon, dont vous nous expliquerez pourquoi il est devenu incontournable. Et à vos côtés, Jean-Marc Paris. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour.
Ravi de vous accueillir à nouveau dans l'économie en direct. Délégué régional AFT et délégué général du GATMARIF, le groupement des activités de transport et de manutention de la région Île-de-France. Comme pour le salon des transitions professionnelles, le GATMARIF est exposant à la fête des métiers et de l'alternance, l'occasion de faire découvrir aux jeunes votre branche professionnelle et tous les métiers et secteurs porteurs qui s'y rattachent. Bienvenue et merci d'être les invités en direct sur IDFM Radio pour ce nouveau numéro de l'économie en direct que vous pourrez retrouver en podcast sur le site idfm98.fr. Pour commencer, parce que nous sommes mardi, comme lors de votre dernière venue d'ailleurs, Cédalhomme et Jean-Marc, avec nous aussi dans le studio Bruno Vigoureux, notre expert culinaire pour notre instant saveur. Bonjour Bruno.
Bonjour Jacqueline, bonjour à toutes et à tous.
Contente de vous retrouver Bruno.
Ah bah merci, merci.
Comment
merci.
Se sont passées ces dernières vacances?
Oh là 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 là, Jacqueline, si vous saviez. Ah, vous n'allez pas être contente après moi.
Ah bon? Vous êtes alors, prêt oui. à repartir?
Non, bien sûr, les vacances se sont bien passées, je vous rassure tout de suite. Et même beaucoup trop bien. Imaginez un peu le tableau. Nous étions 11 dans une grande maison avec mes filles, leur chérie, 6 enfants. Donc, vous voyez où je veux en venir. Oui,
oui
c'est ça.
Bruno à la cuisine.
C'est que ça mange tout ce petit monde et pas qu'un peu. Et c'est que ça boit tout ce petit monde et pas qu'un peu, enfin je parle des grands, je vous rassure. Alors oui, pendant une semaine, on a bien mangé, trop sûrement. On a bien bu, trop peut-être. Mais bon, tout le monde était content. Alors pourquoi je vous raconte toutes mes petites affaires? Mais parce que à notre retour, il a bien fallu réduire un peu la voilure et ne pas retomber dans une tempête de calories et de gras, même si vous savez ce que je pense, que le gras, c'est la vie. Mais bon, il avait été décidé de mettre un sérieux coup de frein à nos repas. Alors, j'ai cherché ce que je pouvais faire de léger, de simple et surtout de bon. C'est vrai que parfois on a tendance à se dire que si c'est léger, c'est pas très bon. Ça peut arriver, mais vraiment pas tout le temps, loin de là. Alors j'ai trouvé un petit plat sympa comme tout qui, j'en suis sûr, Jacqueline, va vous séduire. On va faire un gratin de saumon aux courgettes et aux baies roses. Vous allez voir comme c'est facile à réaliser, encore plus facile à déguster. On va faire ce plat pour 4 personnes. Il vous faut donc 1 kg de courgettes, 250 à 300 g de pavé de saumon sans la peau. Ça, vous demandez à votre poissonnier de le faire. Vous pouvez le faire également vous-même, c'est pas très compliqué. 100 g de comté râpé, 2 œufs, 25 centilitres de crème fraîche épaisse. Oui, je sais, vous allez dire que c'est un peu du gras et ce n'est pas faux. Mais bon, n'insistez pas. Une gousse d'ail, 2 oignons verts, une demi-botte de ciboulette, plus un petit peu au moment de servir, une cuillère à café de baies roses, plus un petit peu également pour au moment de servir, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors pour commencer, on va rincer et éplucher les courgettes et vous les coupez en rondelles pas trop fines quand même. Vous épluchez et émincez l'ail et les oignons verts. Vous coupez le saumon en dés. Vous ciselez la ciboulette et vous écrasez les baies roses. Pour cela, vous vous aidez de la lame d'un couteau que vous posez à plat sur les baies et vous appuyez fort dessus. Dans une grande poêle, vous faites revenir les courgettes dans 3 cuillères à soupe d'huile d'olive à peu près, à feu moyen pendant une dizaine de minutes environ. Vous ajoutez l'ail et les oignons et vous poursuivez la cuisson pendant 3 à 4 minutes. Dans un saladier, vous fouettez les œufs, vous ajoutez la crème, la ciboulette, les baies, vous salez, poivrez et vous mélangez bien. Et là, vous ajoutez le comté râpé, les dés de saumon et les courgettes. Vous mélangez de nouveau afin d'obtenir une préparation bien homogène. C'est maintenant presque terminé. Vous préchauffez votre four à 180 degrés. Vous versez la préparation dans un plat à gratin. Mais attention, pensez bien à huiler votre plat à l'avance. Et maintenant, vous mettez au four pour 30 minutes. Au moment de servir, vous parsemez avec le reste de ciboulette et de baies roses. Et voilà le travail, pas plus compliqué que ça. C'est le genre de plat qui fait du bien à tout le monde, qui se garde même 2-3 jours et c'est super agréable. Alors, vous aussi, n'hésitez pas et foncez en cuisine pour déguster. Jacqueline, je compte sur vous pour avoir votre avis qui m'intéresse toujours. Voilà, je vous souhaite une bonne cuisine, un bon appétit et à très vite. Au revoir.
Merci Bruno, un grand merci. C'est toujours un challenge, hein. Il faut faire les recettes après, derrière. Merci.
Ah oui.
Mais bon, j'ai des invités qui ont manifesté un grand intérêt pour votre recette.
Très bien.
Alors, la question qui fâche, est-ce que vous êtes là la semaine prochaine?
Bah, évidemment.
Ah, bah, très bien.
Merci. Évidemment que je suis là. Bon, je ne promets pas de faire aussi léger que qu'aujourd'hui.
Merci Bruno.
Bonne émission, au revoir.
Au revoir. IDFM Radio, c'est l'économie en direct et à présent c'est l'heure de retrouver Loïc Lagarde, passionné de photos et voyages. Bonjour Loïc. Loïc, je ne vous entends pas. Allô? Ah, bon, alors voilà, notre invité via le téléphone a raccroché. On est en train de le rappeler, Loïc Lagarde, qui est ingénieur électronique de formation et qui se consacre à sa passion de toujours pour l'image et le voyage depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, Loïc Lagarde est un adepte de découverte en quête perpétuelle de dépaysement. Et il ne quitte plus son appareil photo, il sillonne le monde entier à la recherche de lieux et d'instants à saisir. Loïc, vous êtes avec nous ?
Bonjour.
Bonjour Loïc, on vous avait perdu. Ravi de pouvoir échanger avec vous en direct. Alors Loïc, je vous ai présenté comme ingénieur électronique de formation et adepte aujourd'hui de photos et de voyages. Cela signifie-t-il que vous n'exercez plus votre métier d'ingénieur ?
Oui, tout à fait. Je l'exerce plus en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir quelle est la définition d'un métier. En fait, tout est évolutif.
Oui.
Et quelque part, ce que j'ai pu faire dans des vies précédentes sur des expériences professionnelles qui n'ont peut-être rien à voir, ces compétences-là, je les réexploite pour me développer différemment et surtout, à un moment de ma vie, j'avais surtout envie
de vivre de votre passion.
Travailler pour mes passions, exactement, voilà. Ouais. Et de rendre, on va dire, possible le, enfin, d'ailleurs, ça, c'est un problème d'ingénieur, on va dire. Il y avait un problème qui était comment monétiser des passions qui sont coûteuses, qui sont le voyage et la photo.
Oui, oui.
Et voilà ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, bah, tout simplement. Donc,
bravo.
Donc voilà. Donc, mais effectivement, voilà, c'est comme n'importe qui. On évolue, on change de
voilà. D'horizon,
on développe, des compétences différentes. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et demain, peut-être que je ferai encore autre chose par rapport à ce que j'aime.
Oui.
Car le métier que je fais aujourd'hui, qui est donc, bon, c'est, je ne sais même pas, les photographes, parce que je fais de la photo, je fais des expos, je suis très présent sur les réseaux sociaux à travers mon travail. Mmh. Mais je développe tout un ensemble de dispositifs de communication pour me faire connaître. Donc les réseaux sociaux, etc. Donc il faut comprendre les logiques. Des algorithmes et ce genre de choses qui permet d'être toujours essayer de se mettre au goût du jour sur les méthodes de communication, sur les outils qu'on a à disposition pour être toujours dans le game, comme on peut dire. Donc voilà, c'est ça également qui fait que je garde aussi il y a une certaine continuité malgré tout.
Vous êtes tout le temps en veille, quelque part. C'est ça?
Je suis. Il faut plutôt être actif qu'en veille.
Ah. Les deux, en tout cas.
Mais voilà, j'essaie de comprendre et d'appliquer les nouveaux moyens de communiquer son travail, de le monétiser également. Oui. Les choses changent au fur et à mesure. Donc je fais des erreurs, je recommence, c'est des choses qui marchent, qui marchent pas. Voilà, je suis dans l'expérimentation. Donc voilà, il y a de cette manière, je garde quand même la même philosophie que j'avais au départ d'ingénieur
en tant qu'ingénieur. Alors aujourd'hui, vous avez voyagé à travers des destinations lointaines, mais vous avez récemment revisité en profondeur les richesses de l'Hexagone, est sorti un ouvrage, Planète France, aux éditions Lonely Planet, et aussi cette Planète France, donc c'est le titre d'une exposition qui a lieu à Bercy Village. Alors, expliquez-nous pourquoi cette exposition et pourquoi à Bercy Village.
Alors, pourquoi cette exposition s'appelle Planète France? Déjà, je voulais être cohérent par rapport au livre que j'ai sorti sur la France. Je trouvais que ça faisait que ça crée un bon rebond, en tout cas, par rapport à mon livre. Également, voilà, comme j'avais fait ce gros travail sur toute la France les trois dernières années, qui correspondait un peu à la période du Covid, où on était plutôt tous à revisiter notre propre pays. Je voulais quelque part finir ce travail de trois ans à travers ce livre et cette exposition donc sur notre pays. Et pourquoi Bercy Village? Bon, c'est une rencontre tout simplement qui s'est faite et on a vu qu'on pouvait faire des choses tout à fait pertinentes ensemble. Et d'ailleurs, voilà, l'exposition qui a commencé en janvier dernier et qui va finir bientôt,
oui,
a attiré pas mal de monde. Comme on est sur la thématique du voyage de la France, la population qui est également là, j'ai pu y aller plusieurs fois, voir un petit peu comment les personnes interagissaient par rapport à mon exposition. On a des personnes de passage qui viennent à Bercy Village, mais qui sont de passage, mais qui ne sont pas pressés par le temps non plus. En général, ils sont là, ils viennent de la gare du Lyon, ils ont un hôtel à côté, ils viennent pour pour faire du shopping, pour se poser au restaurant avec des amis.
Ils viennent flâner.
Ils sont dans le mouvement, mais en même temps, ils ont le temps et ils flânent, c'est ça. Mm. Et donc, ils viennent de partout également. C'est un lieu de convergence, donc la gare de Lyon qui est pas à côté, Bercy, etc. Donc c'est vraiment le lieu se prêtait parfaitement à ce type d'exposition sur le d'inspiration et de voyage.
Alors quel matériel utilisez-vous, Loïc Lagarde?
Pour prendre mes photos, je suppose.
Oui.
Alors, j'ai un matériel classique d'appareil photo avec différents objectifs, et je travaille également beaucoup avec un drone dans mon exposition. Pas mal de photos étaient prises en drone.
Mais quand vous dites que vous travaillez avec un matériel classique, ce sont des appareils photo numériques.
Oui.
Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas en argentique.
Non, j'ai 42 ans, mais l'argentique, c'est un autre siècle pour moi.
Mm-hmm, c'est vrai.
Voilà. Pour les prises de vue, c'est rigoureusement la même chose. C'est uniquement le développement qui change.
Mm-hmm, mm-hmm, très bien. Et alors, moi, je suis allée bien sûr sur des sites, hein, sur vos sites. J'ai vu vos photos. Est-ce que vous les retouchez, vos photos?
Alors, je les retouche. Il y a un travail de colorimétrie que je fais dessus. Oui. J'utilise principalement Lightroom pour les retoucher. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait une harmonie, on va dire, éditoriale sur mon travail. Mmh. On me reconnaît d'ailleurs pour cette patte qui est plutôt dans des tons chauds, tons colorés. Mmh. Mais je vais surtout travailler sur le moment où je vais prendre la photo. C'est-à-dire, je vais vraiment chercher les moments où la lumière est la plus belle, ce qu'on appelle la golden hour, c'est-à-dire juste au moment du lever du soleil ou juste avant le coucher du soleil, pour avoir ce résultat doré. Donc à partir de là, je vais avoir pas vraiment besoin de beaucoup retoucher.
Très bien. Et alors, ces photos, donc vous avez sorti un ouvrage, hein, je l'ai dit, mais ces photos sont vendues à l'exposition? Les gens qui viennent peuvent en avoir un exemplaire?
Alors, j'ai un site shop sur lequel les gens peuvent tout à fait se procurer un exemplaire avec... différents matériaux, quoi. Enfin, je le propose avec des supports différents.
Oui.
Et sinon, l'étoile en question, je vais déjà en faire gagner auprès de ma communauté, parce que c'est également grâce à elle que je fais tout ce travail, hein.
Oui.
Lorsque des personnes viennent voir mon expo, partagent mon travail, c'est également quelque chose que je trouve très gratifiant. Donc c'est aussi un retour que j'aimerais offrir à toutes ces personnes. Et puis ensuite, oui, des photos seront en vente. Certaines sont déjà prises pour d'autres expositions. Donc je vais voir un petit peu, elles vont faire leur vie, quoi.
Très bien, très bien. Les réseaux sociaux, ce sont lesquels les plus importants dans votre communauté, pour votre communauté?
Alors aujourd'hui, Instagram reste le réseau social le plus important, c'est le plus important pour ce type de contenu. Malheureusement, les règles changent en permanence, donc hier c'était un réseau social qui était particulièrement bien adapté pour les photographes comme je suis. Aujourd'hui, ils cherchent à être sur d'autres créneaux. Donc c'est beaucoup plus difficile pour moi d'être visible sur ce réseau social sur lequel j'ai un passif important, mais à côté de ça je me développe sur d'autres réseaux. Par exemple, j'ai pu voir, là vous m'avez tagué sur LinkedIn, hein. LinkedIn, c'est un réseau social qui est très puissant pour montrer son travail, quel que soit le travail qu'on fait d'ailleurs.
Oui.
tant qu'on le présente de manière pertinente. Et j'ai un écho très favorable sur ce réseau où mes photos plaisent beaucoup. Donc voilà, par exemple, ou alors je me suis également développé sur TikTok parce qu'il faut, voilà, j'essaie oui. toujours de
au goût du jour
de me mettre au goût du jour et de comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Alors c'est plutôt dans le storytelling de mes voyages, de ce que je fais, c'est plutôt le backstage, le behind the scene ou la petite histoire. Les gens aiment bien la petite histoire derrière la photo, ou comment je prends la photo, par exemple. Ça, ils aiment bien. Et voilà, après, voilà, c'est, on va dire, les trois réseaux importants du moment. Historiquement, il y en a eu plein. Moi, j'étais connu, par exemple, sur un réseau qui s'appelait Flickr à l'époque. C'était au début des années, enfin fin des années 2000, début des années 2010. Il y a eu Facebook. Demain, il y aura Nora d'autres. On sait, voilà, c'est tout évolue. Ce sont des outils. En fait, j'essaye d'utiliser au maximum les outils qu'on a à disposition pour communiquer mon travail. Et voilà, en espérant que demain je ne serai pas challengé trop violemment par l'IA.
Vous mettrez à profit vos qualités d'ingénieur pour contourner le problème.
Pour essayer de contourner. J'y réfléchisse, mais bon, c'est difficile d'être toujours performant sur ce type de choses. Effectivement, mais quand je vois ce qui se fait aujourd'hui sur Midjourney ou autre, c'est vrai que là je reviens d'Italie, par exemple. Je vais aller chercher la photo, je vais me lever à 5h du matin. Une photo levée du soleil sur un petit village perché dans une montagne, heure y aller, voiture, continue, etc. Si demain tout ça s'est cassé il suffit juste de dire ah, j'aimerais bien que tu me crées un petit village perché en montagne avec la lumière du lever de soleil. Ouais, c'est vrai que ça peur, mais je refuse d'être dans cette logique d'avoir peur, et ça va peut-être créer de nouvelles opportunités, challenge pour
vos prochains projets,
pour montrer des nouvelles choses, et donc voilà, on verra bien comment ça va. En vérité, ça fait 15 ans à peu près que je fais ça. Il y a eu plusieurs moments des défis à relever, l'avènement des réseaux sociaux, d'Instagram. Je n'avais pas forcément pris le pli au départ. J'avais un peu déconsidéré la chose.
Maintenant, vous êtes en plein dedans. Merci Loïc Lagarde pour votre témoignage. Je rappelle que avec une sélection de 32 clichés saisissants, Bercy Village promet à ses visiteurs une balade d'une grande richesse le long des allées. Je rappelle que votre exposition se termine le 15 mai, donc il n'y a pas de temps à perdre. Et puis je renvoie aussi nos auditrices et auditeurs à votre compte Instagram qui permet de découvrir tellement de photos. Je voudrais remercier aussi Aline Billaudot de l'agence Je suis pas Réunie Communication d'avoir favorisé cet entretien. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles photos.
Très bien, merci beaucoup en tout cas pour votre interview et n'hésitez pas en tout cas à aller passer voir mon exposition avant.
Absolument, à Bercy Village.
Voilà, ce week-end, dernier délai, voilà, bon, à Bercy Village, à Cours Saint-Émilion. C'est très facile, mais ligne 14.
Merci beaucoup Loïc Lagarde, à bientôt.
Si, à bientôt.
Au revoir.
Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we were going. I'm still holding on to everything that's dead and gone. Left the rest in pieces. Des millions de gens, mais je ne veux que toi. Même sur les photos, j'entends ta voix. Mais ce qu'il y a de pire, c'est ta main que j'aimerais tenir. Et je sais pourtant qu'elle ne reviendra pas. Oh.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.
IDFM Radio, l'économie en direct, après avoir parlé de l'expo photo de Loïc Lagarde à Bercy Village, ce matin mise à l'honneur de la fête des métiers de l'alternance qui se tiendra demain 10 mai de 9h à 18h au stade Charletti à Paris dans le 13e arrondissement. Pour alimenter le débat, je suis en compagnie de Véronique Blanc, conseillère du recteur de région académique Île-de-France, déléguée régionale académique adjointe à la formation initiale et continue, Cédalome Folly, responsable emploi et formation du MEDEF Île-de-France, Jean-Marc Paris, délégué général du GATMARIF, groupement des activités de transport et de manutention de la région Île-de-France, exposant au salon de la fête des métiers et de l'alternance. Véronique Blanc, alors, normalienne, agrégée en économie-gestion, titulaire d'une maîtrise de droit des affaires, auteur de manuels, fondatrice d'une association, puis inspectrice, et je vais m'arrêter là pour vous laisser continuer ce parcours hors norme. Véronique Blanc, en lisant votre CV, en préparant l'émission, on a l'impression que vous êtes entrée dans le monde de l'éducation nationale un peu comme on entre dans les ordres. Est-ce que je me trompe?
Ah, c'est drôle ce que vous dites, on ne me l'avait jamais dit, mais on m'a parlé précédemment d'une mission de vie. Oui. Et voilà, c'est peut-être dans la même veine, effectivement, c'est un engagement fort depuis le début, et je trouve ça passionnant. On sent
que vous êtes passionnée sans vous avoir entendu à travers. Alors, parlez-nous de votre parcours et puis de votre passion.
Alors, mon parcours en soi, voilà, c'est un parcours académique assez classique. Peut-être davantage par rapport à ce que vous voulez me faire dire, c'est mon engagement sur la relation école-entreprise.
Oui, oui.
Puisque pour moi, il est absolument nécessaire que l'école et l'entreprise travaillent ensemble. Et donc, c'est à cette occasion qu'effectivement, j'ai pu participer à des ouvrages, créer une association pour que les enseignants rencontrent les entreprises. Et donc plus récemment dans le cadre de ma mission auprès du recteur de région académique Île-de-France, donc je mets en pratique cette vision du rapprochement école-entreprise sur laquelle j'ai travaillé dans mes mes postes précédents à travers la formation continue des enseignants, puisque précédemment à l'inspection générale et à la direction générale de l'enseignement scolaire. Donc j'ai mis en place des partenariats avec les entreprises pour organiser l'immersion d'enseignants pour qu'ils apprennent à pour qu'ils soient en contact avec le monde économique et qu'ils puissent accompagner leurs élèves sur l'orientation, leur orientation par exemple, et qu'ils puissent aussi utiliser ce qu'ils découvrent dans le monde économique, dans leurs cours, quelle que soit la discipline qu'ils enseignent.
Oui, je reviens là-dessus. Moi, je sens cette volonté farouche de réunir le monde économique avec l'école, et puis une vision qui rassure, parce que vu de l'extérieur, ce sentiment n'est pas toujours celui-ci. On est un petit peu dérouté parfois. On a le sentiment que enseignants et monde économique ne sont pas en phase.
Alors effectivement, c'est ce qu'on peut percevoir. Les choses ont beaucoup évolué. Personnellement, en 30 ans de carrière, j'ai vu les choses évoluer, puisque après avoir enseigné pendant une vingtaine d'années, bien je suis sur ces postes davantage d'encadrement depuis 10 ans. Et sur le terrain, les choses ont beaucoup évolué ces 15 dernières années et continuent à évoluer. Et preuve en est, une des preuves que je pourrais apporter, c'est le fait que les enseignants s'intéressent. Je les ai vus s'intéresser de plus en plus à l'entreprise sur le précédent poste dont je vous parlais. Et dernièrement, avec le MEDEF Île-de-France notamment, on a co-construit une université régionale de la relation école-entreprise qui a eu beaucoup de succès. Nous avons eu beaucoup d'enseignants présents, beaucoup d'acteurs économiques aussi qui sont venus rencontrer les enseignants, mais aussi les équipes éducatives au sens large, puisque nous avions des proviseurs, des inspecteurs, des personnels d'orientation, et j'en oublie certains.
Oui, toujours en préparant le dossier, j'ai reçu il y a pas très longtemps Michel Jonker, président du MOVO, et Béatrice Grenier pour la semaine école-entreprise, et je me suis dit qu'au fond, la fête des métiers de l'alternance, c'était un petit peu un prolongement de cette semaine. Est-ce que je me trompe ?
Oui, effectivement, je vois Cédalum qui opine du chef. N'hésite pas à intervenir, Cédalum. Donc, effectivement, alors, il se trouve que je travaille avec Béatrice Grenier.
Oui.
Donc, on travaille ensemble depuis deux ans maintenant. Et effectivement, tout ce qu'on met en place ensemble, et donc, elle a fait partie des personnes qui en particulier ont travaillé sur cette université régionale de la relation école-entreprise, la première université
oui,
régionale.
Oui.
Donc c'est un prolongement effectivement puisque on est dans l'entreprise cette fois-ci. On a on va découvrir ça demain. Hein.
Oui.
Mais il va y avoir un certain nombre de stands et ce qui est proposé, c'est à l'école, au sens avec un grand E, c'est de faire participer des jeunes, donc pour qu'ils découvrent les métiers et pour que ça leur donne des idées pour leur orientation, puisque la relation école-entreprise, en fait, elle est au service de trois finalités: l'orientation, la formation professionnelle, et là on va voir certainement des jeunes qui vont venir se renseigner pour trouver un contrat d'apprentissage, mais aussi elle est utile à l'insertion professionnelle, et donc là aussi l'apprentissage est très intéressant en termes d'insertion professionnelle, puisque 60% des jeunes qui sont en apprentissage trouvent dans les 6 mois un emploi. Donc c'est très intéressant.
Absolument, oui. Je voudrais rappeler aussi, dans votre parcours, c'est vous qui avez introduit l'apprentissage dans les lycées professionnels. Donc bravo pour cette initiative.
Alors pas directement moi, effectivement
pas toute seule, mais
non, bien
voilà,
sûr.
Vous y avez contribué.
Disons que j'y ai contribué dans le cadre cadre notamment à titre modestement d'experte hein, sur le sujet, dans le cadre du rapport ministériel Calvez-Marcon.
C'est ça.
Donc sur la transformation de la voie professionnelle. Mmh. Mais là, nous avons une nouvelle réforme sur la voie professionnelle qui va permettre d'aller encore plus loin que ce qui est en cours aujourd'hui.
On va en parler tout à l'heure. Alors, que représente la région académique Île-de-France ?
Alors, la région académique Île-de-France, ce sont les académies de Paris, Créteil et Versailles. Et merci de me poser la question parce que c'était pas forcément très très connu.
Oui, c'est vrai.
Le fait que, au même titre qu'il y a une région Île-de-France, eh bien, quand on travaille sur des sujets comme la carte des formations, eh bien, elle se travaille avec la région académique Île-de-France, c'est-à-dire les personnes, les délégués académiques de la formation professionnelle. Donc les collègues avec lesquels je travaille, donc dans le cadre de la région académique Île-de-France.
Alors, on a bien compris que vous interveniez auprès des enseignants hein, pour les mettre en phase avec le monde de l'entreprise. Est-ce que vous intervenez aussi dans les entreprises ?
Alors, intervenir dans les entreprises, c'est-à-dire
Pour leur dire comment elles peuvent coopérer avec l'école ?
Oui.
Sur le sujet de l'orientation.
Oui, bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, Cédalum m'a invité récemment à participer à une réunion du MEDEF où il y avait également Jean-Marc. Pour présenter, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, les entreprises ne sont pas forcément conscientes nous voulons travailler c'est avec ça. Elles. Mmh. Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas forcément connus d'elles. Et donc, il faut aller les rencontrer pour expliquer comment on peut travailler ensemble.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi il ne faudrait pas intervenir, je trouve pas le mot, mais est-ce qu'il ne faudrait pas intervenir aussi auprès des parents quelquefois pour ce qui est ce pont entre l'école et l'entreprise?
Oui, c'est effectivement un sujet.
Voilà,
sensibiliser. Sensibiliser les parents. Alors, les parents sont sensibilisés, peuvent être sensibilisés à travers l'organisation de forums d'orientation, de forums des métiers dans les écoles. Après, il est vrai que la façon qu'on a mise en place pour essayer de sensibiliser les parents, c'est de les sensibiliser dans le cadre des comités locaux école-entreprise. Les comités locaux école-entreprise, ce sont des réseaux d'établissements et d'entreprises qui organisent des événements. Donc dans des bassins d'éducation et dans le cadre de ces événements qui peuvent être des forums des métiers ou d'orientation mais qui peuvent être aussi d'autres événements, les parents sont invités à participer. Et en région académique, nous avons 37 comités locaux, écoles, entreprises donc répartis sur les trois académies.
Très bien. Est-ce que ce dont vous venez de parler fait partie des dispositifs de la relation école-entreprise ? Qui permettent aux entreprises d'intervenir dans les écoles ?
Oui, tout à fait. Donc les entreprises peuvent participer à des actions à travers ces comités locaux école-entreprise. Elles peuvent également le faire à travers les campus des métiers et des qualifications. Il y en a 9 en région académique sur des filières, des thématiques diverses, comme l'énergie, la mode, etc. Également, vous parliez de l'intervention de Béatrice Grenier tout à l'heure.
Oui.
C'est dans le cadre des missions académiques, éducation, économie également, que peuvent se faire ces rencontres. Et dans le cadre de la réforme de la voie professionnelle, il va y avoir des bureaux des entreprises dans chaque lycée professionnel.
Très bien. Oui, c'est donc un nouveau pas pour
exactement.
Pour encourager les parents et les élèves à venir rencontrer ces personnes. Alors, est-ce que c'est là aussi, ce sont les objectifs donc de la région académique Île-de-France en matière d'apprentissage?
Oui, la région académique Île-de-France effectivement souhaite développer l'apprentissage, hein, puisque vous le disiez, depuis la précédente transformation de la voie professionnelle, l'apprentissage est possible dans les établissements donc de la voie professionnelle, dans les lycées professionnels. Mais pour l'instant, il n'y a que 10% des élèves de la voie professionnelle qui sont en apprentissage, et donc la région académique Île-de-France souhaite développer donc le nombre d'apprentis dans ces établissements scolaires.
Oui, parce que moi, je reçois très très régulièrement des représentants de confédérations et de chambres syndicales, hein, telles que la CAPEB, la CMA, et au fond, ils se plaignent quand même du manque d'apprentis.
Effectivement.
Et du coup, du risque de perte d'un savoir-faire.
Alors, l'apprentissage est très intéressant pour les entreprises, hein, puisque ça leur permet de tester des jeunes qui sont en formation, de les former et ensuite de les recruter lorsque leur profil, leurs compétences correspondent à leurs besoins. Donc c'est tout à fait compréhensible qu'ils souhaitent développer l'apprentissage, et c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est intéressant pour tout le monde, puisque les chiffres montrent que les apprentis sont plus facilement insérés sur le marché de l'emploi.
Bien sûr, ça leur permet de mettre en application ce qu'ils apprennent à l'école, avoir une expérience valorisante sur leur CV. Enfin, ça montre qu'ils ont bien travaillé.
Absolument, absolument.
Oui. Alors, à la rentrée 2023-2024, les élèves de la voie professionnelle seront rémunérés, même s'ils ne sont pas apprentis, puisque le président de la République et ses ministres ont annoncé la semaine dernière, le 4 mai, la rémunération des stages. Pensez-vous que cela va davantage motiver les élèves à entrer dans la voie professionnelle ?
Alors, je pense que ça ne sera pas la principale motivation, mais c'est intéressant parce que à l'heure actuelle, dans certains lycées, vous avez dans une même classe des jeunes qui sont en apprentissage et d'autres qui effectuent des stages, donc certains qui sont rémunérés et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, voilà, ça va permettre tous d'avoir une rémunération. Et aussi donc de à travers cette rémunération, non seulement ça permet une certaine équité, mais en plus ça va permettre aux jeunes de réaliser que ce qu'ils font a de la valeur. Puisque même si on leur dit ne pas avoir de rémunération, voilà, ça peut faire douter.
Mais alors, cette rémunération, comment va-t-elle être prévue financièrement? Enfin, je veux dire, qui va financer cette...
Alors, c'est l'État qui va financer. Et alors, je n'ai pas beaucoup plus de détails puisque l'annonce est récente. Mais en fonction du niveau, les jeunes vont être rémunérés entre 50, 75 ou 100 euros par semaine.
C'est ce que j'ai lu également. Oui, ça risque peut-être aussi de faire de nouveaux prélèvements pour les entreprises.
Alors là, je ne peux
intervenir.
Je n'ai pas de détails sur l'organisation.
Véronique Blanc, quels sont vos besoins aujourd'hui?
Alors, nos besoins, c'est de faire en sorte que les entreprises, qu'on travaille avec les entreprises, qu'on co-construise des projets ensemble, que les entreprises utilisent les dispositifs de la relation école-entreprise qui existent et qui d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, sont disponibles dans un guide de la relation école-entreprise à destination donc des entreprises en Île-de-France. Donc on a récapitulé les 15 dispositifs sur lesquels les entreprises peuvent s'investir. On a parlé tout à l'heure des des clés des campus des métiers et de qualification, mais il y a bien d'autres choses. Il y a des dispositifs pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Et donc, je ne sais plus quelle question vous m'avez posée. Oui. Je suis partie.
Non, je demandais quels étaient vos besoins. Alors,
voilà, les besoins, c'est travailler ensemble à travers ces dispositifs, en fait.
Vraiment, oui. Encore une fois, sensibiliser encore et encore ce monde académique et le monde de l'entreprise.
Et c'est la raison pour laquelle nous avons produit ce guide qui est téléchargeable sur le site de la région académique.
Oui.
Parce que souvent, les entreprises se disent « j'ai bien envie de travailler avec l'école, mais comment je m'y prends ?»
Je comprends.
Donc voilà, c'est un certain nombre de choses très concrètes, très pratiques pour voir comment travailler ensemble.
Voilà, donc il ne faut pas hésiter à télécharger ce guide.
Absolument.
Les clés, vous l'avez dit, donc c'est CL2E, c'est les comités locaux d'école-entreprise.
Oui, absolument.
Donc je crois qu'on a fait le tour, puisque nous avons parlé de la première université régionale, de la relation école-entreprise, qui est en partenariat donc avec le MEDEF Île-de-France et le GIM,
oui,
qui est un groupement métallurgique.
Absolument.
C'est ça.
Oui.
Merci beaucoup, Véronique Blanc, pour
merci
vos actions et puis votre détermination à tout mettre en œuvre pour faire que le monde académique et le monde du travail soient en phase. Merci à vous.
Merci pour votre invitation.
Il est temps de faire une pause et on se retrouve juste après.
À ces gens qui m'écrasent, quand je serai fatigué de leur dire toujours les mêmes phrases, quand leurs mots voleront un éclat, quand il n'y aura plus que des murs en face de moi, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Quand je serai fatigué d'avancer dans les brumes d'un rêve, quand je serai fatigué d'un métier où tu marches ou tu crèves, lorsque demain ne m'apportera que les cris inhumains d'une meute aux abois, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Y'a les étoiles qui courent dans la neige autour de son chalet de bois. Y'a les guirlandes qui pendent du toit. Et la nuit descend sur les sapins blancs, juste quand elle frappe les doigts. Juste quand elle frappe les doigts. Quand j'aurai je n'aurai plus ma place. Au lieu de me jeter sur le premier Jésus-Christ qui passe, je prendrai ma guitare avec moi et peut-être mon chien s'il est encore là, et j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie, chez la dame de Haute-Savoie.
En Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
si vous nous rejoignez, c'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Et ce matin, on vous donne envie d'aller demain 10 mai à Paris, au stade Charletti, pour découvrir la fête des métiers et de l'alternance. Pour le présenter, je suis toujours en compagnie de Véronique Blanc, conseillère du recteur de région académique Île-de-France, déléguée régionale académique adjointe à la formation initiale et continue, Cédalum Folly, responsable emploi et formation du MEDEF Île-de-France, Jean-Marc Paris, délégué régional du GATMARIF, et... Ah oui, bah, j'ai pas mis que vous étiez à l'AFT, Jean-Marc, mais voilà, délégué aussi de l'AFT, exposant au salon. Cédalum Folly, alors pour rappel, le MEDEF est le premier réseau professionnel de la région Île-de-France avec pour but d'assurer la représentation et la défense des intérêts des entreprises franciliennes et des syndicats professionnels régionaux. La fête des métiers de l'alternance prévue demain 10 mai de 9h à 18h au stade Charletti est organisée précisément par le MEDEF. Je vous laisse nous dire en partenariat avec qui c'est Cédalum.
Alors effectivement, le MEDEF Île-de-France est engagé.
Remettez-le, voilà.
Donc le MEDEF Île-de-France est engagé depuis plusieurs années sur les problématiques orientation, apprentissage, emploi et formation. Et dans ce cadre-là, donc le MEDEF travaille en partenariat avec plusieurs acteurs pour mettre en place une politique emploi-formation qui se traduit par des actions très opérationnelles, dont la fête des métiers de l'alternance. Donc c'est un salon professionnel qui a été mis en place avec la région académique Île-de-France, avec la préfecture de région Île-de-France, la région Île-de-France, la CCI Île-de-France, Pôle emploi, ainsi que d'autres partenaires qui sont engagés en fait pour travailler sur l'orientation, l'alternance, les métiers. Donc on a aujourd'hui par exemple l'ONICEP qui est également partie prenante. On a également Oriane qui est la nouvelle agence de l'orientation en Île-de-France qui accompagne tous les publics sur ces questions. Donc voilà les principaux partenaires. Parmi les partenaires, nous avons également donc les fédérations adhérentes du MEDEF Île-de-France, telles que le GATMARIF. On a également la fédération du bâtiment, les travaux publics qui seront représentés, le GYM et France Chimie, mais j'en oublie certainement.
J'ai vu qu'il y avait l'AFMAE, l'AFPA.
C'est vraiment un événement fédérateur avec les adhérents du MEDEF Île-de-France, les partenaires, les entreprises et également donc tous les acteurs du service public de l'orientation et de l'emploi qui sont investis et engagés sur ces sujets.
Alors c'est un salon qui existe depuis plusieurs années, annuel, qui revient régulièrement, mais aujourd'hui peut-être que les difficultés de recrutement, l'attractivité des métiers, l'orientation scolaire sont des enjeux encore plus majeurs qu'ils n'ont été jusqu'à présent.
Tout à fait, les entreprises sont confrontées aujourd'hui à de fortes difficultés de recrutement. Tous les secteurs sont en tension, les métiers ont du mal à être attractifs auprès des jeunes et de demandeurs d'emploi. Donc il y a un manque d'attractivité de certains métiers, de certains secteurs auprès des jeunes. Il y a aussi, des problématiques d'orientation. Donc ce sont des enjeux qui sont portés par la région académique, par le gouvernement. L'idée, c'est de pouvoir en fait travailler sur l'orientation des jeunes pour leur présenter le plus tôt possible les métiers, les secteurs, ouvrir des nouvelles vocations. Donc c'est vraiment des enjeux qui sont renforcés aujourd'hui depuis la crise sanitaire, mais qui sont aujourd'hui de plus en plus importants. Et donc le MEDEF Île-de-France accompagne ses adhérents pour justement les soutenir, pour valoriser les métiers, les faire connaître, les présenter. Et ça se traduit par différents partenariats, par différents événements, dont la fête des métiers et de l'alternance. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir en un même lieu accueillir donc les exposants mais aussi en fait les jeunes pour leur présenter la diversité des métiers qui sont proposés par les adhérents du MEDEF Île-de-France. Donc on est sur un secteur interprofessionnel, donc il y a le bâtiment, on a les travaux publics, le transport, il y a également les services, la restauration qui seront représentés demain. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir conseiller les jeunes sur ces différentes perspectives professionnelles.
C'est ça, c'est vraiment l'événement qui permet de rencontrer en un même lieu des écoles, des centres de formation, des organismes de conseil à l'orientation, à l'emploi et bien sûr des entreprises. C'est un salon qui a toujours beaucoup de succès.
Alors c'est un salon qui a beaucoup de succès. Malheureusement, avec la crise sanitaire, il a été organisé en distanciel au cours des trois dernières années.
En digital.
Et donc là, c'est
vous revenez au
on revient en présentiel, au Stade Charletti. Donc c'est quand même un lieu emblématique de la capitale qui organise beaucoup d'événements sportifs, mais pas que. Et donc l'idée, c'était de pouvoir en fait réorganiser cet événement dans un lieu emblématique en Île-de-France pour accueillir tous les jeunes qui se questionnent sur leur parcours professionnel et bien sûr ouvrir les champs des possibles à travers donc les exposants, les partenaires présents. Donc c'est vraiment important, et je voudrais dire également que on a l'honneur de pouvoir accueillir demain la ministre Carole Grandjean qui va inaugurer cet événement, donc ouvrir officiellement le salon, parce que c'est un sujet important pour elle, l'emploi des jeunes, l'orientation, la réforme des lycées professionnels, la relation école-entreprise, et donc on a l'honneur d'accueillir demain madame Carole Grandjean qui va inaugurer le salon en lien avec le président du MEDEF Île-de-France et une représentante de la région.
Oui, Marie-Do Schliemann. Oui, ce sont des signaux forts que vous lancez, surtout après peut-être la présentation par Emmanuel Macron des nouveaux dispositifs au niveau de l'apprentissage. Tout ça vient s'imbriquer.
L'orientation, l'apprentissage, l'alternance sont des sujets importants pour le gouvernement. Le gouvernement s'est engagé sur ces questions pendant la crise sanitaire en mettant en place différentes mesures, dont une aide exceptionnelle qui a permis aux entreprises de pouvoir en fait avoir des aides financières pour recruter. Et donc cette aide, elle a été pérennisée aussi cette année et elle est reconduite jusqu'à la fin du quinquennat. Donc le gouvernement s'est engagé depuis le début, notamment avec la loi Avenir Professionnel qui a facilité le recours à l'alternance et à l'apprentissage, avec des nouveaux financements, avec aussi une offre de formation beaucoup plus ouverte et accessible. Et donc le gouvernement s'engage sur ces questions et continue à le faire. Il l'a fait depuis 2018. Et donc là, avec le maintien des aides financières, la réforme du lycée professionnel, on voit aussi que le gouvernement est engagé. Et ce sont des mesures qui sont porteuses, puisque on a atteint un record en termes de chiffres au niveau de l'apprentissage. On est à plus de 835 000 contrats d'apprentissage signés. Et donc le gouvernement espère, d'ici la fin du quinquennat, pouvoir en fait avoir une hausse avec 1 million de contrats d'apprentissage signés par an. Et on est dans cette voie. En Île-de-France, les chiffres sont également très positifs, puisque la région Île-de-France est la première région qui fait la promotion.
Oui, qui draine ce genre de...
On a plus de 90 000 franciliens engagés en contrat d'apprentissage. Ce sont les derniers chiffres.
Des mesures et des dispositifs qui vont faire plaisir au président du MEDEF, je suppose, de les dispositifs de l'État. Vous, Cédal Homme-Folie, en tant que responsable emploi et formation du MEDEF Île-de-France, vous avez participé à l'organisation de ce salon ?
Oui, alors le MEDEF et toute l'équipe, en lien avec un prestataire externe qui nous accompagne, Citéa, et notamment Yvan Cohen, donc nous sommes tous engagés depuis plusieurs mois pour travailler sur l'organisation de ce salon. Donc ça consiste à pouvoir mobiliser les partenaires, les exposants, mobiliser aussi les publics en allant valoriser, faire la promotion de la fête des métiers et de l'alternance, en étant aussi en lien avec le Stade Charletti pour tout ce qui est organisation logistique de cet événement. Donc on y travaille effectivement depuis plusieurs années. On associe également donc nos partenaires, les différents exposants, à travers des comités de pilotage pour justement veiller à accompagner au mieux les parties prenantes qui se sont investies sur l'organisation de cet événement.
Alors depuis, parmi les métiers porteurs émergents, il y a le secteur du digital et plusieurs annonces révèlent que les jeunes femmes ne sont pas attirées dans ce domaine. Vous confirmez ? Peut-être Véronique Blanc ? Non ? Donc c'est de l'homme.
Les jeunes femmes, effectivement, certains métiers sont considérés comme genrés ou stéréotypés. Et donc le MEDEF Île-de-France, avec les différents partenaires, la région académique, mais également les associations et le Syntec, qui représente aussi les métiers du numérique, travaillons à casser tous ces stéréotypes auprès des jeunes femmes. Et l'idée, c'est de pouvoir ouvrir l'ensemble des voies professionnelles, l'ensemble des métiers, tant aux jeunes hommes qu'aux jeunes femmes. Donc effectivement, ce sont des métiers qui sont aujourd'hui moins attractifs pour les jeunes femmes, mais le MEDEF, les syndicats, la région oui, académique.
Vous êtes consciente de cette, enfin c'est un problème là et qu'il faut arriver à résoudre.
C'est une difficulté, mais sur laquelle en fait les différents acteurs travaillent depuis plusieurs années et on voit aujourd'hui que quand même les jeunes femmes sont de plus en plus attirées et présentes dans ces secteurs d'activité.
Très bien. Alors juste encore un mot, Cédel Homfoly, je voulais rappeler que également comme lors du salon des transitions énergétiques, il y a des organismes comme la GEFI hein, qui se mobilisent pour proposer des offres d'emploi aux personnes en situation de handicap et qui sont présents à la fête des métiers.
La GEFIP et Cap Emploi Île-de-France sont présents demain. L'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner les jeunes qui sont en situation de handicap pour pouvoir les orienter sur les métiers, sur les informer au même titre que les jeunes, que les autres. L'idée, c'est vraiment voilà, d'être sur une démarche inclusive et d'accueillir les personnes en situation de handicap pour pouvoir leur permettre de rencontrer les entreprises, les exposants et leur présenter aussi le champ des possibles pour eux malgré leur handicap.
Merci beaucoup Cédel Homfoly pour toutes ces précisions. Alors rendez-vous demain 10 mai au stade Charletti à Paris de 9h à 18h.
On vous attend nombreux donc.
Merci. On marque une nouvelle pause, pas trop longue quand même, Francky, s'il vous plaît, et puis avant d'enchaîner avec Jean-Marc Paris.
4 mots sur un piano, ce qu'elle a laissé. 4, c'est autant de trop, je sais compter. 4 vents sur un passé, mes rêves envolés. Mais qu'aurait donc cet autre que je n'ai? Ne le saurais-je jamais? 4 est banal. Dénouement funeste, 3 moins 2 qui s'en vont, ça fait moi qui reste. Caresse, égard et baiser, je n'ai pas su faire. La partager me soufflait Lucifer. Depuis je rêve d'enfer. Pour elle, pour un simple mot, que lui donne l'autre que je n'offrirai. Elle était mon vent, mes ailes, ma vie en plus beau. Était-elle trop belle ou suis-je trop sot? N'aime-t-on jamais assez? 4 années belles à pleurer, maigre résumé, carte jouée, mais la reine s'est cachée. 4 millions de silences, de regrets qui dansent, les questions, les soupirs et les sentences. Je préférais ses absences. Moi j'aurais tant fait pour elle, pour boire à son eau.
Merci d'être toujours à notre écoute sur EDFM Radio. Et le sujet de l'économie en direct avec ce matin la présentation de la fête du travail et de l'alternance portée par le MEDEF Île-de-France et ses nombreux partenaires qui aura lieu demain 10 mai au stade Charletti à Paris de 9h à 18h avec toujours à mes côtés Véronique Blanc, Cédel Homfoly, Jean-Marc Paris, délégué régional général du GATMARIF, groupement des activités de transport et de manutention de la région Île-de-France, délégué également de l'AFT. Et exposant au salon. Alors Jean-Marc Paris, comme avec Cédel Homme, j'ai le sentiment qu'on reprend notre conversation un petit peu du 22 novembre.
Ouais.
Juste avant, je vous laisse nous rappeler le rôle du GATMARIF et de l'AFT, Jean-Marc.
Alors j'ai deux casquettes, hein, c'est pour ça que je voulais que la présentation soit complète. Effectivement, Gatmarif, c'est un groupement d'acteurs d'activités du transport. En fait, c'est une confédération de transporteurs qui regroupe l'ensemble des fédérations de transporteurs sur la région Île-de-France. Hein. Et l'AFT est un outil qui a été créé il y a maintenant plus de 60 ans en partenariat avec les organisations professionnelles, l'éducation nationale, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est très important, et dont l'objectif social est de faire la promotion des métiers. Donc effectivement, l'opération de demain s'intègre complètement dans cette dynamique, dans cette politique que nous menons pratiquement depuis 60 ans.
Oui, parce que en novembre, nous avions évoqué les difficultés de recrutement dans votre secteur. Et donc là, vous attendez beaucoup de ce salon de la fête des métiers de l'alternance.
Ah oui, parce que effectivement, les métiers du transport et logistique font partie des quatre métiers, hein, les quatre grands secteurs qui ont été identifiés comme secteurs en tension. C'est pas nouveau, ça date de 2018 maintenant. Oui. Alors, j'ai envie de dire qu'on a identifié quatre grands secteurs, mais j'ai envie de dire que tous les secteurs sont en tension. Je sais que recruter des enseignants aussi, c'est pas évident. C'est une vraie problématique aussi dans d'autres secteurs qui sont des secteurs pas forcément liés à l'économie directe, mais les métiers du transport, effectivement, sont dans cette dynamique-là, avec une branche professionnelle qui est représentée par les différentes activités qui sont le transport routier de marchandises, le déménagement qui est intégré au transport routier de marchandises, la location de véhicules avec chauffeur, les auxiliaires de transport, les prestataires logistiques, le transport routier de voyageurs et le transport sanitaire, ce qu'on appelle aussi les ambulanciers plus classiquement. C'est un secteur qui représente en Île-de-France à peu près 160 000 salariés. Il y a à peu près 10 000 entreprises qui font partie du secteur, avec une progression, je dirais, en termes de progression sur les effectifs qui varie en fonction des secteurs d'activité entre 2 et 4% tous les ans, en progression directe depuis 2010. Alors on avait connu une légère inflexion quand il y a eu la problématique de la crise, mais on est reparti à la hausse avec une progression.
La progression en nombre d'entreprises.
En nombre d'entreprises, oui. Et aussi en nombre de salariés. Hein. Quand je parle des 160 000 salariés, oui. 160 000, c'est effectivement les 160 000 sur les différents métiers que j'ai évoqués, j'ai cités. Mais vous savez que dans d'autres activités, vous avez aussi des activités qui sont des activités de transport. Donc, vous prenez la grande distribution, vous prenez aussi les métiers qui ont été cités, les secteurs d'activité qui ont été cités par ces hommes folies. Pratiquement, on multiplie par deux ce chiffre-là quand on fait la totalité entre le champ du transport logistique et le hors-champ sur lequel on a aussi des métiers du transport et surtout de la logistique. Voilà.
Et donc avec des perspectives encore importantes puisqu'il y a ces problèmes de recrutement. Donc, ou alors c'est pas en adéquation.
En termes de recrutement sur la région Île-de-France et au niveau national, alors en Île-de-France, on est sur une dynamique d'à peu près par an de 10 000 conducteurs, je prends ce secteur d'activité-là, à recruter par nos entreprises. Et au niveau national, on est pratiquement à 40 000.
En novembre, vous aviez parlé des milliers de conducteurs de bus scolaires manquants. Ça s'est arrangé depuis ?
Alors, on a eu des dispositifs qui ont permis, je dirais, de descendre l'âge sur des titres professionnels, ce qui a permis et ce qui va permettre d'intégrer à l'éducation nationale des sections en conduite, je dirais, de transport de voyageurs. Donc, on espère, pour la rentrée prochaine, effectivement, avoir des sections qui vont s'ouvrir. Enfin, c'est pas on espère, des sections vont s'ouvrir, notamment en Île-de-France, et ça va permettre de compenser. Mais c'est vrai que pour compenser la totalité des postes à pourvoir sur l'ensemble du champ, je dirais, de la convention collective, on a besoin de tous les acteurs. C'est pour ça que ce type d'opération organisée par le MEDEF Île-de-France avec tous les partenaires cités par Cédalhomme est hyper important.
Oui, c'est un moment fort. Ouais. Avec Cédalhomme, on parlait des métiers genrés. Le transport en est un.
Oui, alors moi je veux bien.
Même si ça a tendance à changer aussi.
Ouais, il y a deux choses. Par rapport à la réflexion de Véronique, je voulais dire, viens à côté de moi, je voulais dire deux choses. C'est vrai que. Sur l'apprentissage dans les métiers du transport et logistique, si on reprend l'ensemble des lycées en Île-de-France qui ont des sections de transport logistique, il y en a 23. Et sur ces 23-là, on a très peu de sections en apprentissage. Alors depuis effectivement que les pouvoirs publics avaient décidé de passer de 500 000 à 1 million, enfin voilà, c'était l'objectif qui avait été défini à l'époque, il y a très longtemps, sous d'autres mandats, on a eu peu d'ouverture en apprentissage sur les métiers du transport et logistique. Alors je pense que c'est dû à une chose qui est importante, c'est que dans un lycée, quand il y a une, la création d'une section transport logistique, il faut derrière, il y a un back-office.
C'est ça.
Qui puisse organiser, qui puisse
aller
vers les
entreprises. Il faut un local, il faut du matériel.
Voilà, oui. Il faut du matériel, il faut des permanents aussi. Hein, et souvent, on n'évoque pas les permanents, mais si on n'a pas de permanents, il n'y a pas effectivement de cette relation qui se met en place. Je pense que ça, c'est important. Après, c'est la mise en adéquation entre l'offre et la demande. Je vous donne un exemple. Il y a deux semaines, pas très loin d'ici, à Saint-Ouen-l'Aumône, j'étais dans un lycée, puis il y avait une entreprise que j'ai rencontrée, une grande entreprise internationale, qui me dit, mais écoutez, ça fait, je ne sais pas combien de temps que j'essaye de prendre des jeunes dans le lycée qui est pas très loin, j'arrive pas à les prendre parce qu'on n'arrive pas à se rencontrer. Bah, là, c'était une problématique de rencontre entre le chef des travaux du lycée, la DRH de l'entreprise et l'adéquation entre, je dirais, l'offre et la demande.
Oui. C'est des choses qui sont quelque chose de simple, finalement, qui n'arrivait pas à se...
Les jeunes venaient, ils venaient dans l'entreprise, ils disaient, mais moi, je voudrais mais rentrer à l'entreprise, j'ai un stage à faire. Ils me disaient, bah oui, mais la période est, voilà, le stage est pratiquement terminé. Donc, l'offre ne rencontrait pas la demande. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à créer parce que ça apporte une vraie valeur ajoutée et c'est ce qui permet, effectivement, de mettre, je dirais, une branche professionnelle en mouvement et de trouver une interface entre le monde de l'entreprise et le monde des enseignants. Le troisième point que je voulais évoquer, c'est sur effectivement les métiers genrés. On a toujours une idée un peu préconçue des métiers du transport et de la logistique. En fait, on a un observatoire prospectif du transport et de la logistique en Ile-de-France et au niveau national que nous animons, et sur lequel on a un chiffre qui est assez éloquent. On est à pratiquement 19% d'effectifs féminins. Vous prenez d'autres activités, notamment sur l'aérien, je crois qu'ils sont un peu plus élevés, mais c'est pas...
Oui, c'est pas tant que ça.
C'est pas tant que ça. Donc, vous voyez, on a une idée préconçue. Les parents, parce qu'on parlait des parents, les parents ont des idées préconçues sur, effectivement, quand ils ont des jeunes filles, en disant, ben non, c'est pas forcément des métiers pour toi. Sauf qu'on est à 19%. Alors, évidemment, ça varie en fonction des activités, c'est-à-dire que si vous prenez la maintenance sur les véhicules, sur les poids lourds, on est à 2 à 3%. Si on prend la conduite routière, on doit être à 6, 7%. Mais si vous prenez les métiers annexes, si vous prenez effectivement les autres activités, on est sur un chiffre qui est tout à fait, je dirais, homogène et pour lequel, effectivement, il y a une intégration de jeunes femmes dans les métiers, dans ces métiers-là.
Là encore, peut-être sensibiliser les parents.
Oui, je pense que ça commence par les parents. Ça, déjà, c'est le premier.
Oui, parce que j'ai reçu aussi la présidente de l'AFMAE, enfin la déléguée, la secrétaire générale de l'AFMAE, qui pour les métiers aériens nous racontait cette difficulté aussi à féminiser, même si elle-même est une ancienne mécano. Donc voilà, elle a commencé comme ça, donc elle est bien placée pour en parler. Jean-Marc Paris, que pensez-vous des mesures annoncées pour la rémunération des stages d'apprentissage ?
Alors, c'est toujours compliqué. Parce que, vous savez, c'est un peu...
Parler sans crainte.
Non, mais c'est pas ça. C'est que toute mesure politique, si vous voulez, c'est à 2-3 ans qu'on voit effectivement les effets. D'abord, à 2-3 ans, on voit effectivement si elle est viable. Après, il y a la pérennisation d'une mesure politique. Hein. C'est comme les contrats de professionnalisation, quand on a changé, ou la création des contrats de qualification à l'époque, dans les années 75, hein, c'est vrai qu'il a fallu quelques années. Aujourd'hui, on ne vend plus les contrats de professionnalisation. Je crois que toutes les entreprises, pratiquement, savent ce que c'est qu'un contrat de professionnalisation, un contrat d'apprentissage. Je pense qu'il faudra quelques années. Après, il y a effectivement le budget. Ça, c'est quelque chose qui va être effectivement nouveau, puisque pour une entreprise, il faudra le décaisser, même s'il y a un cofinancement par l'État. Ça va dépendre aussi, je pense, aussi des sections dans lesquelles on aura des jeunes. Peut-être qu'il y aura plus de difficultés pour certaines, moins de difficultés pour d'autres. L'objectif, il est quand même... je dirais, c'est ce que disait Madame Blanc, Véronique, c'est pas le sujet principal. Je pense que le sujet principal, c'est l'intégration par le biais de l'apprentissage, de la professionnalisation en contrat à durée indéterminée. Nous, dans la branche, on a à peu près 23% des jeunes qui suivent après un CAP, après un bac professionnel, une section en alternance, en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Et on a un taux d'embauche. Alors là, sur la conduite routière, ça explose parce qu'effectivement, les jeunes sont, je dirais, pré-choisis avant même d'avoir terminé leur section, qui est très important et qui permet, je dirais, de pérenniser. On pérennise avec plusieurs mesures. Il faut qu'il y ait effectivement plusieurs mesures qui soient conjointes. On reparlait, je dis toujours la même chose, hein, mais le rôle des parents est très important.
Oui, je pense.
Moi, je me souviens, je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai commencé dans ces métiers-là il y a relativement longtemps. Quand il y avait une soirée comme ça, quand je parlais, quand je disais que je travaillais dans les métiers du transport,
ça faisait pas rêver.
Ça faisait pas rêver l'auditoire, hein, personne. Et aujourd'hui, on a vu qu'avec un certain nombre, je dirais, d'évolutions, notamment la crise du Covid a connue, on s'est rendu compte que ces métiers-là étaient des métiers essentiels. Alors le mot est pas très joli, hein, je trouve que c'est quand même tous les métiers sont essentiels, on s'est rendu compte que pour exister, pour vivre, pour pouvoir consommer dans cette période de confinement qu'on a connue, sans ces métiers-là, on ne pouvait pas vivre. Et puis, on a l'émergence aussi du business, du e-commerce. Vous avez sûrement des enfants. Quels sont les enfants qui n'ont pas commandé sur Internet, je dirais, tout est rien, voilà. Ouais. Donc, ce sont des facteurs qui ont amené ces métiers à devenir de plus en plus, je dirais, plus connus du grand public par rapport à ce que c'était il y a 15, 20 ou 25 ans. Voilà.
Très bien. Et puis, rappelez, vous l'avez dit chacun, que les statistiques révèlent que les contrats d'apprentissage se transforment la plupart du temps en CDI et que aussi ça peut permettre d'avoir sa propre entreprise. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'évolutions qui sont très positives.
Un jeune qui sort à 21 ans avec 3 ans de contrat d'apprentissage sur un bac professionnel, vous imaginez l'expérience que ça mène.
Bien sûr.
Il y a un autre sujet sur lequel je voulais revenir, mais très rapidement.
Oui, parce que...
Quand le président de la République a été faire son tour de France dans le lycée professionnel, on a aussi des jeunes qui sont des jeunes mineurs, et ces jeunes mineurs qui sont sur des métiers sur lesquels il y a un risque professionnel. Mmh. Et je pense qu'il faudra retravailler là-dessus. C'est-à-dire qu'un jeune... S'il monte sur une échelle qu'il est mineur, quel est le risque professionnel, comment c'est appréhendé, comment c'est géré. Enfin, vous voyez, nous, dans nos métiers...
Anticiper, parce qu'effectivement,
c'est quelque chose sur lequel... Si on dit à un jeune, tu viens dans une entreprise, tu fais que regarder, je suis pas certain que ça va l'intéresser.
Absolument, c'est le reproche que font certains jeunes lorsqu'ils arrivent en apprentissage. Merci Jean-Marc Paris. Donc votre conseil, bien sûr, c'est d'aller à la fête des métiers et de l'alternance.
Venez nombreux.
Merci pour votre investissement et votre engagement à promouvoir les métiers de votre secteur. Voilà, c'est presque la fin de notre émission. Alors je redonne la parole à chacun avant de nous quitter. Véronique Blanc.
Merci de me redonner la parole. Je voudrais rebondir sur la difficulté qu'évoquait Jean-Marc sur la rencontre entre l'offre et la demande localement. Et je pense que le bureau des entreprises les bureaux des entreprises qui vont être mis en place prochainement devraient améliorer ce point-là souligné par toutes les entreprises finalement et également par les acteurs éducatifs.
Merci de le rappeler. Merci Véronique. Oui, je pense que ça va être un moyen plus fort pour donner envie à ces personnes de rencontrer les bonnes personnes. Exactement. Merci. C'est Dalam Folie, à votre conclusion.
Alors, je dirais que la fête des métiers est un événement important avec une ambition, celle d'aider les jeunes à la recherche d'informations sur les métiers, à la recherche de formation et d'alternance. C'est également un salon interactif et dynamique puisqu'on a plus de 100 exposants qui seront présents demain. On a également des ateliers et des animations virtuelles pour présenter les métiers de manière innovante et virtuelle. Donc moi, j'invite tous les jeunes en fait qui sont en recherche à venir demain à la fête des métiers de l'alternance organisée par le MEDEF et l'ensemble des partenaires. Et je remercie également donc tous les partenaires qui se sont mobilisés, mais également les exposants qui seront présents demain. Donc on espère que l'édition 2023 sera une réussite et qu'elle ouvrira donc de nouvelles perspectives et de nouvelles vocations aux jeunes. Donc voilà le mot de la fin.
On n'en doute pas. Pour participer à ces ateliers, il faut prendre rendez-vous ou c'est en arrivant dans le salon ?
C'est en arrivant dans le salon. C'est vraiment en fait, le salon sera organisé en plusieurs espaces et il y aura un espace animation où les jeunes, en fait, pourront tout au long de la journée être accueillis par des exposants et des partenaires qui présenteront donc des animations, présentation des métiers de manière interactive, virtuelle. Il y a également la possibilité de travailler donc sur les CV, les lettres de motivation, comment je prépare mon entretien. On a également prévu un mur d'offres avec des offres de stage, des offres de contrats d'apprentissage, mais également des offres d'emploi emploi classique,
oui, donc,
CDD.
Facile CDI. À capter.
Et, voilà.
Oui.
Un salon dynamique, interactif, un lieu d'échange, de partage et un lieu de vocation professionnelle pour les jeunes.
Merci, c'est Delhomme Folie, vous l'avez très bien vendu. Jean-Marc Paris, délégué général du Cap-Marie.
Pour conclure, moi je pense que pour effectivement attirer les jeunes, il faut montrer les choses.
Oui.
Montrer les choses parce que c'est tellement abstrait pour un jeune qui a 13, 14, 15 ans, qui arrive comme ça, qui découvre des métiers, on lui parle. Alors quand c'est sur un document Word, c'est pas très vivant, hein, faut reconnaître ce qui est. Je pense qu'il y a un gros effort à faire pour montrer. Il faut aller dans des entreprises, il faut que les jeunes, avec les enseignants, les chefs de travaux, enfin ex-chefs de travaux, viennent faire des découvertes métiers, il faut qu'ils viennent découvrir effectivement quelles sont les évolutions. Je pense qu'il y a encore à retravailler sur ce sujet-là parce que, quelque part...
Il faut donner envie.
Mmh. Et moi, j'ai un exemple, dans les sections conduite routière, moi je le vois, les jeunes qui sont en CAP, en bac pro, conduite routière, c'est parce qu'ils ont eu un papa qui leur a montré comment ça fonctionnait. Je crois qu'il y a cette espèce de pérennisation, je dirais, de la connaissance, de l'envie, du besoin, qui fait que il faut passer par là, parce que on peut exposer tout ce qu'on veut avec nos mains, avec des papiers, avec des outils interactifs, mais tant qu'on n'est pas rentré dans une entreprise, on ne peut pas vraiment avoir une idée globale, effectivement, de ce qu'est une activité professionnelle.
Rien ne vaut la mise en pratique. Vous parliez de ces jeunes qui font un métier parce que leur papa le fait. C'est le cas de la secrétaire générale de la FAE dont je vous parlais. Son papa était mécanicien et elle a pris le relais. Merci beaucoup à chacun d'avoir participé, d'avoir été les invités en direct sur IDFM Radio. Donc voilà, un seul mot d'ordre. Demain 10 mai, allez à la fête des métiers de l'alternance de 9h à 18h au stade Charletti à Paris. Et puis faites le plein de conseils et d'offres pour assurer votre avenir. La suite des émissions à 11h avec la balade musicale présentée par Christophe Gravreau. Merci Francky pour la technique. Merci à vous tous qui écoutez notre chaîne et merci pour votre fidélité comme à chaque émission. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver son podcast à tout moment sur idfm98.fr. Vendredi prochain, nous parlerons des règlements climatiques et de tiers-lieux. Alors à vendredi 9h30, d'ici là, belle journée, bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches.